député Maxime Blanchette-Jonca qui a accumulé 20 129 signatures dans une pétition pour l'amélioration des conditions financières des aînés. Il l'a déposée la semaine passée à la Chambre des communes. Et quand on parle de la Chambre des communes, ben ça, c'est à Ottawa. On lui parle à l'instant. Bonjour, M. Blanchette-Jonca.
Bonjour, M. Saint-Pierre.
Bon, je le disais dans mon introduction, c'est récurrent, ça, qu'on vienne dénoncer, soit par la FADOC, soit par les partis d'opposition. Également, ça a fait l'objet de plusieurs campagnes électorales au fil du temps, c'est-à-dire le sort qui est réservé aux aînés par rapport aux aides financières qu'on appellera pour les besoins de la cause la pension de vieillesse. Mais ce qu'on dénonce plus souvent qu'autrement, c'est la faible indexation d'année en année. Est-ce que c'est autour de ça que votre pétition tourne particulièrement?
Principalement. Je vous dis, vous l'avez bien nommé en introduction, il n'y a pas une année qui passe sans qu'on en parle, mais moi je vous dis et je vous confirme qu'il n'y a pas une semaine, voire une journée qui passe que les aînés n'appellent pas mon équipe ou moi-même pour me témoigner du sentiment d'abandon qu'ils ont face au gouvernement fédéral présentement. Bien sûr, ça passe par du soutien financier. Écoutez, près de l'indexation, l'automne dernier, on parle de 61 sous. On n'en a même pas assez pour acheter un café.
Ouais.
Donc là, c'est complètement inacceptable. Et ce qu'on remarque dans les dernières années, bien, l'augmentation de la pension de vieillesse n'a jamais suivi le coût de la vie. Et principalement depuis le début de la pandémie, bien, on le sait, les gens les plus vulnérables, ce sont nos aînés, autant sur le plan physique, donc sont plus vulnérables d'attraper la COVID-19, également sur le plan d'isolement, c'est les gens qui ont dû restreindre complètement leurs activités, donc plus de difficultés à socialiser. Il y a des gens qui ont dû rester à la maison, se faire livrer leur épicerie, leurs besoins de médicaments et autres. Et donc là, tout augmente, mais la pension vieillesse n'augmente pas. Ce qu'on constate depuis le début, il y a eu plusieurs aides, autant pour les particuliers, on pense notamment à la PCU, on a eu pour les entreprises. Mais donc, il y a eu un soutien très faible pour les aînés, un maximum de 500 $. Ben, 500 $, c'était pour les gens qui sont sur le supplément de revenu garanti. Mais ça, c'est une aide ponctuelle. Ce qu'on demande au gouvernement, et à travers ma pétition, c'est une aide récurrente.
Oui. Et qui pourrait, dans les faits, là, qui pourrait se traduire par quel type de pourcentage d'ajustement? Parce que là, quand on a parlé tout à l'heure d'un montant qui n'était même pas l'équivalent d'un café, là, 60 et quelques cents, dans le fond, on souhaite quoi? On souhaite un rattrapage progressif par rapport aux indexations qui n'ont pas été faites, ou quand on l'a fait de manière tellement peu substantielle qu'à la fin du mois, ça paraît même pas. Qu'est-ce que vous souhaitez? Ou juste un rattrapage, ou tout simplement une indexation qui aurait un meilleur rapport avec le coût réel de la vie?
Il y a plusieurs façons de voir les choses. Je vous dirais qu'au Bloc québécois, nous, ce qu'on a calculé, ce qu'on demande, c'est une augmentation de 110 $ par mois.
Donc, oui.
Avec ça, ça permettrait quand même d'avoir un soutien significatif. Donc, on parle quand même plus de 1300 $ par année. C'est ça qu'on demande pour rattraper et que ça se fasse de façon récurrente, là. Parce que présentement, je peux bien vous le dire, là, c'est pas pour rien qu'on a fait une sortie avec les groupes, là, avec des aînés de la région. On parle bien sûr de la FADOC que vous avez nommée. Il y avait le Carrefour 50 ans et plus là-dedans, la table de concertation du Bas-Saint-Laurent, donc tous les groupes de défense d'aînés de la région. Ce qu'on constate, bien, c'est ça, que là, la pension de vieillesse n'a pas suivi dans les dernières années. Et ça vient un grave problème là, sur le plan, encore là, du pouvoir d'achat de nos aînés. Donc, principalement, ce qu'on a remarqué dans les dernières aides, mais il n'y avait rien complètement de précis pour les aînés.
Oui.
Et là, je parle, bien sûr, on a eu un discours du trône cet automne, ça demande des priorités du gouvernement. On a eu une mise à jour économique au mois de novembre. Donc, vous comprenez, on a été patients de notre côté, mais on n'avait rien, là, on voyait rien à l'horizon. Donc là, il a fallu passer de la parole aux actes. On a demandé concrètement du soutien récurrent de la part du gouvernement. Il y a un budget qui arrive très bientôt, 19 avril prochain. On souhaite réellement qu'il va y avoir quelque chose. Et là, on n'invente rien, là. C'est une promesse électorale de la part du gouvernement libéral. Donc, il faut agir. Il faut arrêter de vivre dans le mauvais film qu'on a dans les dernières années.
Vous avez probablement cette statistique-là, mais combien de personnes... au Canada, bon, parce que on parle en termes de pension canadienne là, à nos aînés, il y a combien de personnes âgées au Canada, en termes de pourcentage, qui n'ont que pour seul revenu la pension de vieillesse et le supplément de revenu garanti?
Je n'ai pas le chiffre, malheureusement, mais écoutez, je peux vous donner des données qui sont assez, même encore plus représentatives de la région. Regardez, il y a des municipalités dans le Bas-Saint-Laurent que les gens, c'est 90% et plus des aînés qui représentent la population qui sont sur le supplément de revenus garanti. Donc, déjà là, ça vous démontre que la pension de vieillesse n'est pas suffisante pour couvrir leurs besoins de base et ils doivent avoir accès au supplément de revenus garanti. Et là, écoutez, la pension vieillesse, on s'en va pas faire des milliards de dollars avec ça. Là, ça tourne autour de 18 000 dollars par année.
Mais quand même, c'est malheureux que vous ne soyez pas en mesure de me donner cette statistique-là, à savoir le pourcentage de Canadiens et de Canadiennes qui vivent avec pour seul revenu pension de vieillesse et supplément du revenu garanti, parce que ça permettrait d'avoir un éclairage intéressant, si on veut, par rapport au fait que est-ce qu'on est là en train présentement de parler de milliards ou en train de parler de millions, compte tenu du nombre de personnes que ça pourrait concerner, ne serait-ce que pour le supplément du revenu garanti. La pension de vieillesse, elle, peu importe ton revenu, tu y as droit, mais le supplément de revenu garanti, ça dépend justement du revenu que tu as en poche. Mais bon, si on ne l'a pas, on ne pourra pas en parler. Monsieur Blanchet-Jonca, quelle réponse attendez-vous de ça de la part du gouvernement, sachant très bien que dans les dernières années, à peu près rien n'a été fait?
Ben, juste pour renchérir, M. Saint-Pierre, là, on avait estimé la proposition. Là. On parle de 4 milliards au total. Là. Donc, on parle au final, là, c'est ça. Approximativement, c'est 4 milliards de dollars. Ça fait déjà partie d'une annonce électorale qu'on avait faite lors de la dernière élection. Donc, ça a déjà été estimé. On n'invente pas les chiffres.
Ouais.
Et même, je peux même vous préciser, une personne sur quatre au Bas-Saint-Laurent a plus de 65 ans et plus. Et ça y va en s'accentuant.
Oui.
Donc, vous voyez-vous, déjà là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ça rejoint une très forte partie de la population tout de même.
Oui. Est-ce qu'on peut parler maintenant de ce qui est sorti de rapport de la vérificatrice générale concernant la gestion de la pandémie? C'est certain que ça a été un coup de massue, ça, sur le gouvernement de Justin Trudeau, quand on a parlé, entre autres, des retards à agir. Bon, certains diront, c'est fait, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais quelles sont, à votre avis, les conséquences de ce rapport-là sur le gouvernement actuel?
Très simple. Les conséquences, c'est une propagation du virus. On se demande pourquoi les variants se propagent davantage. Écoutez, c'est le bureau du vérificateur général qui le mentionne, l'Agence de la santé publique. Les gens qui sont revenus au pays pendant la pandémie, ils ont passé directement dans les mailles du filet. On parle de deux personnes sur trois, disons, qui n'ont pas été retracés là, pour s'assurer qu'ils respectent leur quarantaine à domicile. Et même, ce qu'on apprend, c'est que l'Agence de la santé publique du Canada a omis aussi d'alerter les autorités publiques, donc la police, pour transmettre l'information que des gens n'allaient pas respecter leur quarantaine.
Ouais, ouais.
Donc, quand les gens ne respectent pas leur quarantaine, on sait ce que ça fait. Les gens, ensuite, peuvent aller continuer à vaguer à leurs occupations. Et là, ben, ça fait une transmission du virus.
Oui. Mais quand j'ai parlé de conséquences tout à l'heure, vous m'avez mal compris, là, parce que j'ai pris la peine de dire dans ma question, certains diront, ben, c'est fait, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Alors, quand je parle de conséquences pour le gouvernement, oui, dans ce rapport-là, il y a des passages qui sont pas rigolos, là, qui sont accablants, mais en même temps, est-ce qu'il y a une quelconque conséquence pour le gouvernement? Peut-être que oui, dans l'opinion publique, mais pour le reste, est-ce qu'on lit le rapport, on le met sur la tablette, puis on passe à un autre appel?
Bon, premièrement, il va falloir qu'on étudie le rapport davantage, donc les différents représentants des ministères vont venir témoigner. Je pense qu'il y a une question d'imputabilité. Écoutez, on ne peut pas laisser les frontières ouvertes sans conséquence. C'est sûr sur le point de vue économique, mais là, on le voit sur le point de vue sanitaire. Quand j'ai parlé de la propagation du virus, c'en est une conséquence. Le gouvernement devra faire face à la musique, tôt ou tard, ça je peux vous le confirmer. Présentement, disons, on cible l'Agence de la santé publique, mais là, il y a des gens qui ont pris des décisions de laisser les frontières ouvertes. Est-ce que là, c'est des recommandations de la part des différents ministères? Est-ce que c'est l'Agence de la santé publique? Est-ce que c'est du point de vue politique que les décisions ont été prises? Il va falloir faire la lumière à travers tous ces aspects-là.
Oui.
Mais présentement, ce qu'on peut savoir, bien, c'est ce que j'ai mentionné. Deux voyageurs sur trois sont passés directement à travers les barrières sans respecter les conditions de leur quarantaine. Donc, ça, c'est très préoccupant. Et je pense qu'il y a une chose également. Oui, c'est sûr, la COVID-19, là, c'est une pandémie, ça arrive pas chaque année. Mais il y avait déjà eu des avertissements dans le passé. Là on parle des crises du SRAS, du H1N1. Donc, le gouvernement fédéral, ce qu'on apprend à travers ce rapport-là, c'est qu'il n'était pas prêt. Et malgré le fait qu'ils ont dû déjà gérer des virus là, ou des crises sanitaires dans le passé.